الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي الكرام أخواتي الكلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاف خيسر السلام عليكم ورحمة الله avant tout je tiens à vous remercier pour votre présence et votre patience un dimanche à cette heure-ci avec ce beau temps c'est pas évident de on est samedi à Afouan. On est samedi. Je suis arrivé hier, donc j'ai l'impression que c'était le week-end déjà. En plein week-end, à cette heure-ci, c'est jamais évident de libérer du temps pour parler de sujets qui parfois sont un petit peu rêches. Donc je vous remercie sincèrement pour votre présence et Inch'Allah, par avance, pour votre attention. Barakallahu fikoum. Donc on va commencer, Inch'Allah. Les conférences sur la finance islamique, si on veut faire quelque chose de suffisamment complet pour que vous repartiez avec quand même une bonne base, ça va durer, je pense, minimum une heure, Inch'Allah. Ensuite, on laissera place aux questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque point lors de la présentation pour laisser place aux questions. Parce que si je rentre dans le détail, on en aura pour 2 ou 3 jours. Donc c'est pas une volonté de ma part de pas vous donner certaines informations ou autre, simplement qu'il faut malheureusement faire des choix. Et je suis convaincu, Inch'Allah, que grâce à votre attention, les questions seront suffisamment pertinentes pour justement qu'on traite tous les points, en tout cas, qui sont importants pour vous. Donc, on va commencer, Inch'Allah, la présentation qui s'articulera en 3 parties. Donc la première sur les fondements éthiques de la finance islamique. Donc là, on va parler un tout petit peu des principes on va dire qu'on trouve en général dans les livres dans la partie de fiqh al-mu'amalat. Parfois, lorsqu'on intervient aux côtés des chouyours, c'est une partie qu'on ne traite pas nous-mêmes, d'accord, étant donné qu'on n'a pas les qualifications pour le faire, ou en tout cas pour répondre à d'éventuelles questions pointues sur ces sujets. On n'est pas des savants, donc nous on a un rôle à jouer qui est d'essayer de mettre en place des solutions et ensuite de les faire valider par les savants. Donc c'est pas nous-mêmes, on ne valide pas ce qu'on fait sur le plan religieux, même si on a un minimum de base pour au moins savoir dans quelle direction on doit aller avant ensuite d'aller présenter ces choses-là aux chouyours. Donc je vais quand même le faire pour que vous ayez les principes de base. Et donc je parle bien évidemment sous le contrôle de Cheikh Mahmoud avant tout. Fajazallah khair al-jazah. La deuxième partie, ce sera Inch'Allah sur les techniques qui existent dans la finance islamique pour justement proposer des alternatives par rapport à ce qu'on voit au quotidien, ce qui nous est proposé par les banques, les assurances, etc., et qui, pour la plupart, ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Et enfin, on parlera rapidement de notre expérience à nous, une expérience pratique sur le terrain, puisque ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on est sur le terrain, la moitié à peu près dans le cadre associatif, justement, où on essayait de faire la promotion de la finance islamique, et l'autre moitié maintenant dans le cadre professionnel, où on essaye directement donc de développer des solutions en grande partie pour la communauté musulmane en France. Wallahu ta'ala ala wa ahkam. Donc on va commencer, Inch'Allah, sur les fondements. Avant de commencer, en fait, moi, je m'excuse, j'ai une question pour vous avant de commencer. J'aimerais savoir un petit peu les profils qu'on a ici. Donc on n'a pas le temps de faire le ta'arruf correctement, on est un petit peu nombreux. Mais je vais juste demander à main levée, si vous me le permettez. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà assisté à une conférence sur la finance islamique? D'accord. Ou des gens qui ont déjà potassé, qui ont déjà cherché, qui ont lu, qui se sont renseignés sur le sujet? D'accord. Donc les autres, vous découvrez, c'est ça? Tout le monde découvre. D'accord. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? D'accord. Les autres sont pas étudiants, hein? Non? Étudiant, c'est un terme large, hein. Étudiant, vous pouvez étudier aussi le Coran pendant toute votre vie. J'espère qu'il n'y a que des étudiants, en fait. C'était une question piège, mais... Alors, on va commencer par le commencement. Vous savez que je vais être vraiment très schématique, d'accord? Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas m'en tenir rigueur. Ne pas être trop pointilleux sur. Parfois, je fais des raccourcis parce que si je rentre dans le détail, on va perdre tout le monde. Donc, le premier point de principe à garder en tête lorsqu'on parle de finance islamique, c'est ce qu'on appelle la permission originelle. Donc, le fait que, si vous, pour ceux qui ont étudié un petit peu le fiqh, vous avez grosso modo une partie qui s'adresse à ibadat, une autre qui s'adresse à. Au mu'amalat, où on va entrer dedans, al-mu'asharat, etc. En fait, il y a une partie du fiqh qui s'adresse aux relations que l'on entretient avec notre Seigneur, subhanah, et puis on a une partie du fiqh qui s'adresse, grosso modo, aux relations qu'on a entre nous. Donc, al-mu'amalat, les transactions, même si c'est une traduction qui est un petit peu grossière, puisque quand on parle de transactions, on pense tout de suite aux transactions financières, etc., alors qu'en réalité, c'est vraiment toutes les relations que l'on a avec nos semblables, avec nos frères et sœurs, même avec les non-musulmans, etc. Donc, c'est tout ce qui, le droit, la partie du droit qui régit les relations horizontales. Dans cette sphère-là, on applique principalement une règle qui est celle de la permission originelle. C'est-à-dire que dans le cadre des relations, de Mu'amalat, a priori, tout est halal, sauf ce qui a été expressément décrit comme étant haram. Et donc, cela implique, en termes de usul, de fondement, un certain nombre de mécanismes qui vont s'appliquer, comme le fait que la charge de la preuve incombe à celui qui dit que telle chose ou telle chose n'est pas correcte, etc. Donc, il faut comprendre en cela que, par exemple, le fait de porter des lunettes, à l'époque du prophète, ça n'existait pas. Aujourd'hui, bon, bah, il y en a pas mal ici qui portent des lunettes. Je ne pense pas que vous vous soyez posé la question, quand vous allez acheter vos lunettes, de savoir si c'est halal ou pas de porter des lunettes. Et pourtant, c'est quelque chose qui est nouveau. D'accord? Donc, en ce sens, c'est celui qui dira que les lunettes ne sont pas halal qui devra le prouver. Donc, jusqu'à preuve du contraire, porter des lunettes est halal. Donc ça, c'est un principe de base qu'il faut retenir, puisque forcément, dans la finance, comme dans les autres sphères de l'économie ou même de notre vie en général, il y a des choses nouvelles qu'on voit tous les jours qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Certaines sont correctes, d'autres ne le sont pas. Donc dans la finance, c'est la même chose. On ne pourra pas systématiquement, lorsqu'on présente une manière de faire un financement automobile ou un financement immobilier ou un produit d'épargne ou une assurance ou que sais-je, on ne pourra pas systématiquement répondre à la question, mais est-ce que à l'époque du prophète, on a fait ça? Non, parce que ça n'existait pas, ou certaines choses n'existaient pas, ou alors le besoin même n'existait pas. Il s'est présenté par la suite, on a cherché des solutions, les solutions ont été trouvées, dès lors qu'elles ne comportent rien qui soit expressément décrit comme illicite, alors a priori la solution est illicite. Donc voilà, c'est un point de principe à garder en tête et qui, inch'Allah, permettra comment dire, d'aborder le reste de manière sereine. Alors ensuite, deuxième point, le caractère licite de l'objet du contrat. Alors, je ne vais pas lire à chaque fois les slides, hein, donc je vous laisse lire pour ceux qui veulent lire les références, etc. Je parle moi juste du principe, et vous pouvez lire pour regarder les sources, etc. Donc, le caractère licite de l'objet du contrat. Lorsqu'on parle de transactions commerciales, vous savez que systématiquement, il y aura un objet au contrat, ce qu'on appelle l'objet, c'est-à-dire sur quoi porte le contrat. Une vente, c'est bien une vente de quelque chose. D'accord? La vente, dans les termes du contrat, peut être complètement licite. Et puis, lorsqu'on va regarder l'objet même de la vente, lui-même, il n'est pas illicite. Ce qui rendra l'ensemble de la transaction illicite. Donc, on peut dire, par exemple, je vends une bouteille de champagne, même si les termes sont corrects, le paiement est fixé, le prix est fixé, toutes les conditions sont fixées, donc a priori, il n'y a rien qui pose problème dans la transaction, mais l'objet même de la transaction, il est illicite. Ça rendra forcément toute la transaction illicite. L'une des matérialisations de ce principe dans la finance, c'est notamment lorsque vous investissez. Lorsqu'on investit ou lorsqu'on dépose notre argent à la banque, etc., on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent ou bien même qu'est-ce qu'on fait nous directement avec notre argent. Quelqu'un qui vient vous proposer d'investir avec lui, par exemple, dans un projet, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que tout dans ce projet est halal. D'accord ? Parce que si une partie de l'activité du projet, par exemple, n'est pas halal, naturellement, vous n'aurez pas le droit d'y investir. Alors, ensuite, un terme important également dans les principes, c'est ce qu'on appelle al-gharar. Donc, al-gharar, pour bien comprendre ce que c'est l'incertitude ou le manque de transparence ou de clarté dans les clauses des contrats. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple, je vous vends ma voiture à 5000 euros, et vous dites, d'accord, j'achète la voiture à 5000 euros, c'est bon, adjugé vendu. Vous m'avez vu avec ma voiture. En fait, tous les jours, vous me voyez avec une voiture, vous croyez que c'est ma voiture. En fait, c'est une voiture de fonction, par exemple. Et moi, ma voiture, en réalité, elle est chez moi. C'est une autre voiture. Donc vous dites, ah, machallah, c'est la belle voiture là, 5000 euros, c'est une belle affaire, et je la prends. Et en réalité, moi, j'avais en tête une autre voiture. Le problème ici qui se pose, c'est qu'on n'a pas été clair dans la manière de définir toutes les clauses du contrat, et notamment l'objet du contrat. D'accord ? Une autre clause, ça pourrait être, par exemple, ou un autre élément d'incertitude, ça pourrait être, je ne sais pas, on a oublié de parler du kilométrage. Alors que c'est quelque chose qui est fondamental quand on analyse une voiture. Quand on regarde une voiture, savoir si elle est bien, pas bien, si le prix il est bon ou il n'est pas bon, on va regarder le kilométrage. C'est un élément essentiel. Donc si on n'en parle pas, vous voyez ma voiture, vous croyez qu'elle est assez récente, donc le kilométrage ça va. En réalité, vous allez découvrir qu'elle a 300 000 km et là vous allez sauter au plafond. Alors ce principe de gharar, pourquoi est-ce qu'il est fondamental ? Il faut, pour comprendre l'esprit qui est derrière, au-delà du fait qu'il a été que son interdiction a été légiférée, il faut aussi comprendre l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est derrière, c'est que lorsque on n'est pas clair dans les termes d'un contrat, c'est une source de fitna. Une source de fitna parce que le jour où on va se rendre compte de ce point-là, peut-être qu'on sera en désaccord. Si on l'avait su avant, si j'avais su avant qu'elle avait 300 000 km, ou si vous aviez su plutôt, puisque moi je suis le vendeur, si vous l'aviez su, vous ne l'auriez pas acheté. Donc un jour, vous allez revenir me voir, hey, mais tu nous as arnaqué, la voiture elle a 300 000 km, tu mets moi je pensais que tu savais, kada kada. On a laissé en fait une zone de flou, d'accord ? Et cette zone de flou, à un moment ou un autre, elle crée de la fitna. Un exemple très simple aussi que j'aurais dû prendre avant, c'est celui des prêts. Les prêts, lorsque vous prêtez de l'argent entre vous, avec la famille, etc. Tonton, tata, les frères, les sœurs, les cousins, allô, oui, tu peux me dépanner 2000 euros, ok, pas de problème, Alish, 2000 euros, je te fais un virement demain. Mais on n'a pas précisé quand est-ce qu'il faut rendre, comment, est-ce que c'est en une seule fois, est-ce que c'est en plusieurs fois, quelle est l'échéance, à quelle date, etc., etc. Ça, c'est, vous le savez aussi bien que moi, c'est l'une des sources de fitna les plus importantes dans nos relations avec notre famille. Souvent, vous voyez vos papas avec vos tontons, les oncles, etc. Il y a plein d'histoires comme ça. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a fait la transaction, on a oublié un élément essentiel. Enfin, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est que ma'alish, ma'alish, et puis hop, on laisse passer. Et du coup, un élément essentiel de la transaction, on l'a mis de côté. Et un jour ou l'autre, ça crée la fitna. Parce que celui qui a prêté, il va revenir au bout d'un mois, il va dire « ça y est, je veux mon argent ». L'autre, il va dire, mais attends, tu n'es pas sérieux, ça fait à peine un mois quand même, laisse-moi au moins un certain temps. Il dit, mais moi, je pensais que c'était un mois. Ah, mais non, mais moi, je pensais que c'était un an. Et voilà, et c'est la guerre. Donc, al-gharar, comme les autres principes d'ailleurs, sont là pour, comme je l'ai dit au début, encadrer les relations entre les hommes, avec pour objectif principal de préserver la fraternité. Donc ça, c'est un point également que j'ai déjà évoqué. Donc la réglementation des clauses contractuelles, je veux le préciser un petit peu, ça c'est un autre point. Et quand on met dans un contrat, par exemple, je ne sais pas, une vente, alors je vous vends un bien, un petit appartement en bord de mer, en France ou peu importe où, et puis dans le contrat, je mets une clause qui dit que j'aurai le droit de venir occuper l'appartement pour mes vacances tous les ans pendant 2 semaines. D'accord? En fait, là, on met une clause dans un contrat qui va dénaturer le contrat. C'est-à-dire qu'une vente, le principe même d'une vente, c'est qu'il y a un paiement et il y a al-qabd, il y a la propriété, il y a un transfert de propriété. J'achète la bouteille est à moi. Elle n'est pas à moitié à moi ou un quart à moi, elle est à moi et j'en fais ce que je veux. On ne peut pas écrire dans un contrat, je te vends la bouteille à condition que je boive la moitié. Ça ne veut rien dire. D'accord. Une fois que la bouteille est à moi, si je veux te donner la moitié, je te donne la moitié. Mais la bouteille, elle est à moi. On ne peut pas écrire ça dans un contrat. Donc c'est mettre des clauses dans les contrats qui dénaturent le contrat même. Alors ensuite, le maintien de l'équilibre contractuel entre les parties. L'un des fondements, encore une fois, de la finance islamique, c'est l'équité. L'équité et la justice. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que, à l'échelle mondiale, il y a les capitalistes, les riches qui s'enrichissent, les pauvres qui s'appauvrissent? C'est à cause de ça. C'est parce que ce principe-là n'est pas respecté. Il n'y a pas d'équilibre contractuel entre les parties. En réalité, les riches, ceux qui ont l'argent, donc dans un contrat par exemple à la banque, qui a l'argent, bah, c'est la banque, même si en réalité ce n'est pas son argent, c'est le vôtre. Mais bon, on part du principe que c'est le sien. Elle vous fait un prêt par exemple, eh bien, elle va vous dire, si c'est par exemple pour, je sais pas, une entreprise, vous devez me rembourser la somme plus un certain pourcentage d'intérêt. Peu importe ce qui se passe. Vous gagnez, votre affaire marche bien, l'Iberg, c'est bien pour vous. Votre affaire ne marche pas, pas de chance, vous me devez toujours la même somme avec la même charge d'intérêt. Ça, c'est structurellement une injustice, puisque en réalité, celui qui a le capital, celui qui a l'argent, il ne perd jamais. En réalité, tu gagnes, je gagne, tu perds, je gagne. En fait, je gagne tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est un principe de base à respecter dans les opérations de finance islamique. Ensuite, naturellement, l'interdiction de riba. Alors, riba, je ne vais pas rentrer dans une définition trop détaillée parce que, encore une fois, il y a des livres et des livres, des tomes et des tomes sur le sujet. Mais bon, grosso modo, la forme d'intérêt que vous connaissez le mieux, c'est l'intérêt bancaire, donc l'intérêt qui est appliqué soit sur un prêt, donc un crédit immobilier, automobile, crédit consommation, ce que vous voulez. Ou alors également sur votre épargne. Lorsque vous déposez de l'argent sur un livret A, un livret PEL ou que sais-je, vous percevez des intérêts. D'accord? Donc soit vous empruntez, la banque vous fait payer des intérêts, soit vous prêtez ou vous déposez de l'argent et la banque vous donne des intérêts. Dans les deux cas, ça s'appelle riba et c'est complètement haram. Ensuite, il y a d'autres formes que peut prendre riba. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, juste pour que vous sachiez que, au-delà de l'intérêt purement bancaire, il y a aussi d'autres formes qui peuvent exister. Je donne un exemple encore une fois. Par exemple, voilà, je vous prête de l'argent, d'accord? Enfin, vous me prêtez de l'argent, parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent à prêter. Vous me prêtez de l'argent, par exemple, vous me prêtez 1000 euros, et puis vous me dites, bah, en contrepartie, par exemple, tu me laves ma voiture une fois par semaine pendant 3 mois. D'accord? Ça s'appelle riba. C'est de l'intérêt. D'accord? Pourtant, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est qu'il y a une contrepartie. Donc, il y a une règle de base au Usul qui dit Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Donc, tout prêt, dès lors qu'on prête de l'argent, si en contrepartie il y a quelque chose, quoi que ce soit, si c'est de l'argent et il y a un surplus d'argent en contrepartie, c'est le riba. Mais s'il y a autre chose, moi, en tant que prêteur, je bénéficie de quelque chose, peu importe la forme que ça prend, ça s'appellera riba. D'accord ? Parce que le prêt, en islam, al-qard, al-hasan, il doit être systématiquement dénué d'intérêt, dénué de contrepartie. Il doit pas y avoir de, il doit être désintéressé. Si je prête, je n'attends strictement rien en retour. Ni qu'on me lave ma voiture, ni qu'on soit plus gentil avec moi, ni qu'on me donne plus d'argent en retour. Ensuite, alors, la bonne foi contractuelle, alors ça, c'est un principe plutôt moral, on va dire, moral, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'on a des injonctions claires, à la fois dans le Coran et dans la Hadith, et après, les différentes sources, des injonctions fortes quant au fait de respecter ses engagements et de ne pas tromper l'autre, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle la bonne foi contractuelle. Donc, être de bonne foi dans nos relations avec les autres, de manière générale. Alors, ensuite, un principe qui est, cette fois-ci, plus d'ordre organisationnel. Comment est-ce qu'on s'assure dans la finance islamique, que les principes que j'ai énoncés, qui s'assure qu'ils soient bien respectés dans les opérations de finance islamique? Parce que là, je vous ai présenté des principes. Je dis que normalement, dans toutes les opérations de finance islamique, ces principes-là doivent être respectés. Mais qui s'assure que ces principes sont bien respectés? Qui va vérifier que c'est bien respecté? Donc, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a systématiquement, un peu comme dans le halal, tout à l'heure on a cité l'exemple du halal, dans la finance islamique, il y a systématiquement un comité de chouyour qui supervise des opérations. C'est-à-dire que, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que, voilà, on voit que dans la communauté, bon, bah, par exemple, les gens ont besoin de se financer pour leur maison. Bon, on se dit, voilà, la seule solution qui existe, c'est le crédit, le prêt à intérêt à la banque, bon, c'est pas halal. Donc voilà, il faut qu'on trouve une solution pour répondre à ce besoin. Aujourd'hui, il y a en France 12% de musulmans qui sont propriétaires, alors que la moyenne nationale est de 50%. Donc, ça veut dire qu'on est très très loin de la moyenne nationale, la raison principale étant le fait que les musulmans ne veuillent pas avoir recours au crédit. L'autre raison, c'est peut-être que voilà, d'autres ont, soit en termes de revenus, de capacités, etc., mais personnellement, je n'y crois pas trop à cette raison. Je pense que la raison principale, c'est l'aspect religieux. Parce que ce qu'on a constaté également par ailleurs, c'est que les musulmans épargnent plus que la moyenne nationale. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas une raison économique, c'est vraiment une raison religieuse. Donc on se dit, voilà, il y a ce besoin. Maintenant, il faut trouver une solution. On essaye de mettre en place une solution qui soit halal. Nous, on n'a pas la science infuse. On connaît un petit peu les principes de base. Donc on essaye de construire une manière de faire un financement immobilier qui soit halal. Ensuite, c'est pas nous qui allons dire « Ah bah ce que j'ai fait là, c'est bien, c'est bon, je vous le certifie, c'est halal. » D'accord, ça n'aurait aucun sens d'ailleurs, que ce soit celui qui le fait, qui lui-même le certifie. On ne peut pas être, comme on dit, juge et parti. Donc il y a systématiquement dans les opérations de finance islamique, un comité. En général, il est composé d'environ 3 chouyours. Le profil de ces personnes, c'est typiquement donc des ulamas, des fuqaha, des personnes qui ont à la fois un bagage académique, donc qui ont étudié et qui sont diplômés des grandes universités islamiques dans le monde, qui ont également souvent une certaine expérience, soit dans l'imama ou dans la da'wa ou la direction d'institut, etc. Et qui ont également une spécialisation dans fiqh al-mu'amalat. Et puis enfin, qui ont des bases suffisantes, voire même la plupart du temps des diplômes, dans, soit en économie et en finance, ou alors en droit. Donc en droit des affaires, droit commercial, je veux dire droit français, pas droit islamique. D'accord ? De manière à pouvoir déjà, de base, bien comprendre ce qu'on fait avant de pouvoir statuer sur le plan religieux. Parce qu'un faqih qui va regarder quelque chose, s'il n'y comprend rien, il ne pourra pas avoir une analyse pertinente. Lui, il a les outils de faire, mais s'il ne comprend rien à ce qui se passe dans l'opération, il ne pourra pas dire c'est halal ou c'est pas halal. D'accord ? Donc raison pour laquelle il y a un peu cette double compétence, d'un côté le faire, et de l'autre côté l'économie, la finance et le droit. Darfouane. Donc voilà, pour tout ce qui est des principes, on va dire, d'ordre religieux et l'encadrement par un comité qui s'appelle Sharia Board. Enfin, souvent, c'est un terme qui est tiré de la pratique, un peu le monde anglo-saxon, donc Sharia Board. Board, ça veut dire comité, hein, d'accord. Donc il ne faut pas se faire peur. C'est un comité éthique, si on veut, ou un comité religieux qui va vérifier tout ce qui se fait et qui va émettre une fatwa, qui va dire, voilà, ce produit-là ou cette solution-là, on l'a étudié de A à Z, les contrats, les conditions, les flux financiers, la comptabilité et tout ce qui va autour. Et on a analysé tout ça et on considère que c'est conforme à l'éthique musulmane. Alors, vous me direz, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on a dit que l'asl fil ashiya al-ibaha ila ghayri dhalik, pourquoi dans ce cas il faut quelqu'un pour venir faire une fatwa si le principe de base c'est que c'est halal? D'accord, on pourrait penser que c'est pas logique. Non. La logique derrière, c'est que certes, peut-être que de base c'est halal, mais si on n'a pas un tampon quand même pour rassurer les gens, pour dire aux gens que voilà, il y a des chouurs qui ont regardé et c'est bon, ils considèrent que c'est bon. Ça serait, les gens ne pourraient pas adhérer. Où il faudrait qu'on aille systématiquement à chaque personne expliquer le pourquoi du comment, que lui-même il aille faire ses recherches, etc. Alors que là, voilà, on dit voilà, il y a un comité de chouyour qui est là, qui a statué, qui considère que ça c'est halal. Donc ça facilite, on va dire, les choses. Alors au niveau de chaque opération qui se fait ou de chaque banque qui existe islamique dans le monde, etc. Il va y avoir donc ce fameux Sharia Board, ce fameux comité religieux ou éthique. Il faut savoir que en France et un peu partout dans le monde, en réalité, les chouurs ne font que appliquer en France des normes ou des règles qui ont été écrites par un comité de savants internationaux, avec pas mal de noms que vous connaissez probablement, vous pourrez trouver facilement sur internet, la AAOIFI, donc c'est le nom qui est là, en orange, en haut à droite, AAOIFI. Donc en fait, c'est comme c'est rédigé là, une instance indépendante qui est composée de beaucoup de savants du monde entier qui se réunissent, il me semble que c'est à Bahreïn, et qui vont travailler sur tous ces produits qui peuvent exister, financement automobile, financement immobilier, épargne, etc., etc., et qui vont dire, voilà, les règles à respecter dans chacun de ces produits ou dans chacune de ces solutions. Mais ça, ils le font de manière purement religieuse. C'est-à-dire que comment on va faire... comment on va appliquer ça en France et comment on va l'appliquer en Angleterre, ça peut pas être exactement la même chose étant donné que le contexte n'est pas le même. Alors quand je dis contexte, c'est vraiment le côté légal. La loi française, c'est pas la même chose que la loi anglaise. Donc au final, le contrat, par exemple, Murabaha, vous avez tous entendu parler de Murabaha pour le bien immobilier. Murabaha en France, c'est pas le même contrat que Murabaha en Angleterre. D'accord ? D'un point de vue shari, c'est la même chose. C'est les mêmes principes qui sont respectés, mais le contrat final, c'est pas le même, parce que le droit n'est pas le même. D'accord ? Donc il y a des règles de la loi qui s'appliquent en France, qui ne s'appliquent pas en Angleterre, et vice-versa. Donc en fait, les comités de savants locaux dans chaque pays, ils prennent les normes qui sont rédigées par l'AOIFI, qui sont des savants internationaux, et qui les appliquent là où eux, ils sont. Puisque par exemple, je sais pas... Cheikh Ali Al-Qurradari, que vous voyez peut-être sur Iqra, etc., qui fait partie de ce comité, il est au Qatar. Déjà, il ne parle même pas français. Comment lui va pouvoir vérifier qu'en France, les contrats ils sont corrects? Il ne parle même pas français. Il ne connaît pas le droit français. Comment fonctionne le droit français, les impacts, quand on écrit telle chose, quand un avocat écrit telle chose dans un contrat, qu'est-ce que ça implique, etc. Il n'y comprend rien. Lui, tout ce qu'il peut dire, c'est que les effets de ce contrat, d'un point de vue de charia, ils doivent être ça et ça et pas ça et pas ça. Donc après, il y a des gens qui sont localement, des gens qui sont qui sont qualifiés, jurisconsultes, etc., mais qui sont francophones et qui, eux, vont pouvoir justement, à la lumière de ces normes-là, appliquer pour le terrain français. Alors voilà pour ce qui est de la partie 1. On va passer à la partie 2. Je vous invite à rédiger peut-être vos questions sur la partie 1 pour ceux qui en ont, parce qu'après ça va être encore des choses qui vont, peut-être vous faire un petit peu mal à la tête. Donc il vaut mieux, vous allez probablement oublier vos questions. Ceux qui en ont déjà sur cette première partie, je vous invite à les noter. Donc on va rentrer rapidement dans, la partie 2. Un petit rappel des principes, donc de l'éthique, de la responsabilité et de l'aspect participatif que j'ai déjà présenté. Alors souvent, on résume en 5 principes qui sont là. C'est juste un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est ce que vous trouverez beaucoup sur Internet, dans les livres de finance islamique, etc. C'est ça. Donc, essayez de, je sais pas, prendre une photo ou je sais pas, ou les retenir. Ces 5 principes. Riba, al-gharar, les secteurs haram, le partage des pertes et des profits, et l'adossement à l'économie réelle. Ça, ce sont ces 5 piliers que vous retrouvez tout le temps. C'est en gros une synthèse, si vous voulez, de tout ce qu'on a dit avant. Tu me dis quand tu as fini d'écrire. Hein? On t'attend.
C'est bon.
C'est bon? Alors, rapidement, avant de rentrer dans la technique, on va juste parler déjà de la finance islamique. Concrètement, ça représente quoi aujourd'hui dans le monde ou en France, etc. Alors, dans le monde aujourd'hui, la finance islamique, c'est moins de 1% de la finance globale. D'accord ? Donc c'est vraiment un épiphénomène. C'est quelque chose qui est minuscule dans la sphère financière mondiale. D'accord ? Donc l'une des conclusions à tirer de ça, c'est que la plupart des pays musulmans, comme vous le savez peut-être déjà, dans la plupart des pays musulmans, la finance islamique, elle est ultra minoritaire. D'accord ? On la voit très peu, même dans les pays musulmans. D'accord ? Dans certains plus que d'autres. Si vous allez dans les pays du Golfe, vous en verrez un peu plus que dans les pays du Maghreb, par exemple. Mais ça reste quand même minoritaire. Donc le système financier prépondérant dans les pays du Golfe ou dans les pays musulmans en général, ça reste la finance conventionnelle à Mal-Asaf. Malheureusement, ça reste la finance conventionnelle. Alors, ensuite, où on la trouve, la finance islamique dans le monde? Comme je le disais, donc dans les pays musulmans. Alors, les points un petit peu névralgiques, c'est grosso modo le Golfe. Il y en a beaucoup à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Qatar, Koweït, Bahreïn, voilà, tous ces pays. Et il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup en Malaisie. La Malaisie est très avancée en matière de finance islamique. Donc c'est un petit peu les deux poumons, si vous voulez, de la finance islamique dans le monde. Et puis ensuite, ça commence à se développer doucement dans les autres pays musulmans. Donc, et parfois même dans certains pays non musulmans. Donc aux États-Unis, en Angleterre, où c'est déjà bien développé. Et puis plus récemment, donc un petit peu en France, on commence à voir un petit peu en Allemagne, etc. Et puis dans les pays aussi du Maghreb, on note ces dernières années qu'il y a quand même une évolution assez marquée. Une évolution assez marquée, notamment en Tunisie, au Maroc, où actuellement ils parlent énormément de ça. Il y a une loi qui a été mise en place et les banques sont en train de préparer leurs produits pour proposer des solutions de finance islamique de manière beaucoup plus sérieuse que ça l'était fait par le passé. Alors pour ce qui est de la France, ce qu'il faut avoir en tête, c'est... Alors, premièrement, souvent, on pense qu'en France, ce n'est pas possible parce que la loi ne l'autorise pas, ou bien la loi n'est pas adaptée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. On va dire qu'aujourd'hui, en termes d'adaptation de la loi, de la fiscalité, etc., on est à 80% d'adaptation. Donc, on a déjà des outils, on a déjà suffisamment d'adaptation pour pouvoir faire de la finance islamique en France. Et d'ailleurs, il y a eu un gros travail qui a été fait, notamment à l'époque de Christine Lagarde, lorsqu'elle était ministre de l'économie en France, où il y a eu des documents officiels qui ont été publiés, etc., qui parlent de tous ces produits de finance islamique. Et qui nous permettent aujourd'hui, d'ailleurs, déjà de faire un petit peu de finance islamique en France. Sans ça, on ne pourrait pas le faire. Donc la France, en réalité, l'État a déjà fait une bonne partie de son travail. Donc, chose que vous apprenez peut-être. Donc c'est important de le rappeler. Deuxièmement, en France, il y a maintenant beaucoup de compétences en matière de finance islamique. En tout cas, ça commence à pas mal se développer. Il y a des formations qui ont été mises en place. Donc vous avez des masters, par exemple, il y en a un à Strasbourg, que moi-même j'ai eu la chance de faire la première année lors de son lancement en 2008. Et donc voilà, qui existe encore. Donc ça fait 6 ans maintenant que le master existe. Dauphine également a fait, l'Université de Paris-Dauphine a fait un master en finance islamique. Et il y a pas mal aussi d'autres grandes écoles, écoles de commerce ou universités qui ont des modules de finance islamique. À la Kulihal, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se font et donc des compétences qui commencent à se consolider. On voit de plus en plus de personnes qui sont formées. Donc on a à la fois un cadre légal et fiscal qui est propice. On a également des compétences en France. Donc ce qui manque maintenant en France, c'est que des acteurs, donc les acteurs, les grands acteurs, les banques, etc., se lancent sur ce marché. Marché qui n'est pas négligeable, puisque nous, aujourd'hui, on estime un potentiel de 15 milliards d'euros, à peu près, ce que pourrait représenter le marché de la finance islamique en France, avec principalement l'immobilier. Et puis ensuite l'épargne. Donc on a fait pas mal de statistiques, pas mal de sondages. On a aujourd'hui aussi une grosse base de données avec beaucoup de personnes de musulmans de France qui ont exprimé leurs besoins via notre site internet en disant voilà, nous on recherche ça, on est intéressé par ci et ça, etc. Donc tout ça nous permet de faire des statistiques et voilà, de vous apporter des chiffres. Pour vous dire un petit peu ce que représente le marché de la finance islamique en France. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire au quotidien, de montrer, de prouver aux banques que voilà, il y a un marché qui est là et qu'il ne tient qu'à elles de le prendre avant peut-être que d'autres acteurs viennent de l'étranger, etc. Alors maintenant, on va parler technique. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de prendre en fait quelques besoins. On regarde en fait le musulman lambda, quelles sont ses interactions avec les produits financiers. Vous avez tous un compte courant, donc on va parler du compte courant. Vous avez tous, vous n'avez pas tous, mais vous avez tous pensé à un moment ou à un autre à devenir propriétaire, à acquérir un bien immobilier. Donc on va parler d'un bien immobilier. Et puis beaucoup d'entre vous, je pense, ont des produits d'épargne, des livrets. Livret A, PEL, etc. Donc on va aussi parler de ça. La méthodologie que je vous propose, c'est qu'à chaque fois, on prenne un produit et on regarde à peu près qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose problème dedans et quelle alternative propose la finance islamique, soit de manière théorique, ou même de manière pratique, si aujourd'hui ça existe déjà en France. Mais ça, c'est pas la partie qui m'intéresse, puisque je suis pas là pour vendre des patates. Donc, on va parler uniquement de l'aspect théorique. Alors, le financement, on va commencer par le financement immobilier. Ou peut-être qu'en fait, on va le laisser pour la fin, parce que c'est le meilleur qui reste pour la fin en général. Donc, on va commencer par le plus simple, le compte courant. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs de slide parce que c'est très simple. Vous avez un compte courant. À votre avis, qu'est-ce qui pose problème dans le fait d'avoir aujourd'hui un compte courant dans une banque ?
Il se sert pour créer des intérêts. Il se sert de cet argent pour faire des prêts, prêter de l'argent et récupérer cet argent avec
une banque. Ça, c'est une bonne réponse. Il y avait une main qui s'est élevée là, je crois, non ?
Le problème, c'est l'assurance.
L'assurance ? Dans un compte courant ? Il n'y a pas d'assurance dans un compte courant.
C'est pas obligé de mettre l'assurance.
Il peut y avoir une assurance. Oui, enfin, ça, c'est des produits qui proposent en plus. Alors, si vous dites ça, c'est parce que quand le compte courant, c'est l'entrée en relation. C'est quand vous dites bismillah, entre guillemets, avec la banque, on commence par un compte courant. Et ensuite, on commence à vous proposer d'autres choses, dont les assurances, etc. Parce que maintenant, les banques font assurance, les assurances font banque. Donc elles font tout et elles vous proposent le maximum de produits, etc. Après, l'assurance, vous pouvez l'avoir aussi parfois dans la carte bleue. La carte bleue, vous avez parfois des assurances qui vous couvrent d'autres choses que parfois vous ne savez même pas d'ailleurs quand vous demandez votre carte bleue. Autre chose, une autre réponse, non ? Là-bas ? Ah, très bien. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui pose problème dans le découvert ? Voilà, donc les agios, les intérêts, etc., les intérêts de retard, tout ça. Voilà, donc il y avait d'autres réponses ?
Le paiement différé.
Paiement, oui, ça c'est une option, mais effectivement, en tout cas, ça pose problème. Il ne faut pas avoir de tout ce qui est carte de, enfin, à débit différé, etc. Ça, c'est, il ne faut pas le faire.
Surtout qu'ils travaillent avec notre argent, on ne sait pas sur notre compte courant, le salaire, etc. Ils travaillent avec cet argent, on ne sait pas ce qu'ils font avec.
Tout à fait. Ça rejoint ce que disait le. Exactement, exactement. Ça rejoint ce que disait le frère. C'est que voilà. Donc on va s'arrêter sur ces deux points principaux. Le premier, c'est donc l'utilisation qui est faite de vos fonds. Souvent, quand on met de l'argent dans un compte bancaire, on croit que la banque, en fait, c'est un gros coffre-fort dans lequel tout le monde vient mettre de l'argent. Et puis, quand on en a besoin, on vient chercher notre argent, on nous ouvre le coffre, on nous donne notre argent. Ça ne marche pas comme ça, comme vous pouvez vous en douter. En réalité, quand vous d'ailleurs, vous pouvez faire le test si vous voulez. Je sais pas, vous avez 10 000 euros sur votre compte. Allez, le jour J, enfin, vous avez besoin des 10 000 euros, allez à la banque. Et vous leur dites, je veux mes 10 000 euros. Ils vont vous dire, non, c'est pas possible. Ils vont vous dire, revenez demain ou revenez après-demain. Pourquoi ? Si c'était dans un coffre, ils auraient juste à ouvrir le coffre et à vous donner vos 10 000 euros. Mais c'est pas dans un coffre. En réalité, cet argent, il est en train de tourner un peu partout. Il est en train de faire des petits pour la banque, pas pour vous, bien sûr. Mais d'ailleurs, même si c'était pour vous, ça poserait problème aussi, puisque ce serait des intérêts. Donc ça, c'est ce qui pose problème, c'est qu'on le sait. En fait, on sait que la banque utilise ses fonds et dans des choses qui ne sont pas halal. Ensuite, l'autre point, c'est effectivement le découvert, donc les agios. C'est que lorsque vous êtes à découvert, eh bien, vous payez des intérêts de retard, hein, des intérêts de découvert, des agios, et qui sont considérés comme étant haram, puisque c'est le riba, c'est de l'intérêt pur et dur. Voilà donc les points qui posent problème. Après, pour parler d'alternatives, très simplement, on peut imaginer un compte courant pour lequel la banque vous garantisse que les fonds ne sont pas utilisés pour des choses qui sont haram. Aussi simple que ça, puisque la banque a le choix de faire à peu près ce qu'elle veut avec cet argent-là. D'accord ? Après, elle, étant donné que vous, il n'y a pas de condition, vous signez votre convention de compte, vous ouvrez votre compte, elle fait ce qu'elle veut avec, elle va faire ce qui est le plus intéressant pour elle. D'accord ? Mais on peut imaginer aussi qu'une banque propose un compte où vous avez la garantie que votre argent n'est pas utilisé à faire n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les agios, le découvert. Donc là, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. D'ailleurs, vous pouvez même, bon, c'est assez rare, sauf si vous êtes un très bon client de la banque depuis des années, etc., demander à ce qu'on vous enlève ça de votre contrat, qu'on vous enlève les agios de votre contrat. Ça, c'est pour ce qui est du compte courant. Compte courant, on passe maintenant à compte rémunéré, donc épargne, produit d'épargne. Livret A, livret développement durable, PEL, CEL, enfin, il y a tous les noms que vous voulez. Tous ces contrats, même chose, question, qu'est-ce qui, à main levée s'il vous plaît, qu'est-ce qui, selon vous, pose problème dans ces produits d'épargne qu'on vous propose à la banque ? Oui ?
Il y a plusieurs choses, il y a la perception des intérêts, il y a l'utilisation qui est faite des fonds.
Oui.
Principalement sur le
poids. Oui. Autre chose ? Oui, Arafan, j'avais pas vu, je suis désolé.
C'est la garantie que vous allez gagner. Alors que normalement, ça devrait être un investissement et qui est. Ça rejoint le principe d'équité.
Intéressant. Vous avez levé la main là-bas aussi, je crois ? Non ?
Par contre, oui. Mon frère, est-ce que tu peux reprendre en fait ce que disent les frères ?
Oui. Ah oui, c'est une très bonne remarque. D'habitude, je le fais. J'ai oublié, je suis désolé. Ah, barakallahu fik, qu'Allah te récompense. Okay. Alors, le premier point qui a été évoqué, donc j'ai demandé qu'est-ce qui, selon vous, pose problème dans les comptes d'épargne, les produits d'épargne. La première réponse qui a été donnée par un frère, c'est l'utilisation des fonds ainsi que la perception des intérêts. Donc, vous percevez des intérêts et puis en plus de ça, on utilise votre argent pour... Des besoins qui sont illicites. La deuxième réponse qui a été donnée par un frère ici, c'est que il n'y a pas de prise de risque. En fait, les fonds sont garantis. Le retour, entre guillemets, sur investissement ou la rémunération est garantie. Donc, c'est une transgression au principe même d'équité et de partage des pertes et des profits. Est-ce qu'il y avait une autre proposition ? Et si, il y a aussi un frère qui a qu'Allah le récompense, pensez à faire la remarque qu'on répète les réponses pour que les sœurs entendent. Le fait que la banque vende quelque chose qui ne lui appartient pas. Peut-être parce que je suis resté sur le slide. Tu as regardé ça ? D'accord. Dans les produits d'épargne, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème-là. Dans un produit d'épargne, très simplement, soit vous, entre guillemets, vous prêtez de l'argent à la banque avec des intérêts, et après elle fait des choses avec, dans les livrets, etc. Soit vous-même, la banque investit pour vous votre argent, vous mandatez la banque pour investir votre argent, ça reste le vôtre, mais elle investit dans des choses qui sont voilà. Ouais, j'ai pas donné la réponse. Mais... C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres propositions là-bas ? Oui, Fadal Akhi. À quoi sert cet argent ? Pour
faire face à quoi ?
Pour faire face à quoi ? C'est une question ou c'est une réponse ? Moi, ma question, c'était, est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui pose problème dans le fait de placer votre épargne sur un livret ou sur un contrat d'assurance vie ou sur un... etc. Je vous écoute.
Est-ce qu'on veut faire face aux difficultés comme on dit, 7 ans de bachelet, 7 ans de bachelet.
Oui. Alors, ça, c'est un autre point. Je vais en parler après, Inch'Allah. C'est pas ce qui rend la chose licite ou illicite. Ça, c'est le besoin. On va vous parler du besoin. Pourquoi est-ce qu'on épargne ? On épargne effectivement pour mettre de l'argent de côté pour différentes choses. Ça peut être pour des projets. Plus tard, je veux acheter un bien immobilier. Plus tard, je veux aller au Hajj. Plus tard, le plus tôt possible. Hein, etc. Donc, pour différents besoins, je veux mettre de l'argent de côté. Pour les études de mes enfants, pour ma retraite, pour que sais-je. Ça, c'est le besoin. Et après, il y a, ok, mais je le mets où cet argent ? Pour épargner. Je peux très bien le mettre sous le matelas, je peux très bien le mettre sur un compte courant aussi. Et je peux aussi le mettre sur un compte rémunéré. Mais là, c'est un choix délibéré que je fais de le mettre sur un compte rémunéré qui va rapporter des intérêts qui sont illicites. Oui ?
On le met sur le même compte courant qu'on avait défini au préalable.
C'est, voilà, vous avez donné la réponse. Mais je vais quand même refaire le développement. Donc, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Comme ça, une partie le suspense sera maintenu pour une partie de l'audience. Donc, les points qui ont été soulevés sont corrects pour tous. Le problème qu'il y a dans le fait de mettre de l'argent sur un livret d'épargne, par exemple, c'est qu'on va vous donner une rémunération. Cette rémunération, c'est de l'intérêt. Pourquoi ? Parce que dans un livret, vous prêtez finalement de l'argent à la banque. Et la banque l'utilise pour faire différentes choses. Alors après, on va vous dire, oui, mais regardez, c'est super. Le livret A, ça finance le logement social en France. Oui, c'est très bien. Mais il n'en reste pas moins que le contrat, c'est de l'argent contre des intérêts. Qu'on fasse avec, même qu'on aille sauver des gens je ne sais où dans le monde, ou peu importe. Moi, j'ai signé un contrat dans lequel on me dit que je vais percevoir des intérêts. D'accord ? Donc ça, c'est le principal problème. Ensuite, l'autre problème également, c'est que on pourrait vous répondre à la banque, oui, ben écoutez, si vous ne voulez pas de livret, on peut vous proposer d'autres produits où vous allez placer, par exemple, sur les marchés financiers, en bourse. D'accord ? Vous allez placer en bourse sur des actions, etc. Et on a même d'ailleurs des produits de placement éthiques, ce qu'ils appellent l'ISR, investissement socialement responsable. Et là, on va vous dire, on va investir que dans des actions de sociétés qui respectent l'environnement, qui ne font pas travailler des enfants en Asie du Sud-Est, etc., etc. Tout ça n'est pas suffisant pour faire qu'un placement soit halal. Lorsqu'on investit en bourse, il faut faire attention au fait que la société dans laquelle vous investissez soit, que son activité soit halal, et également que au niveau de ses comptes, de ses finances, qu'elle ne soit pas trop exposée à la pratique des intérêts. D'accord ? Je vous donne un exemple très simple. Si on vous dit, regardez votre argent, vous pouvez l'investir dans des actions de la société, c'est enregistré, hein, de la société Fulen qui fait des voitures. D'accord ? Qui construit des voitures et qui vend des voitures, un constructeur automobile. Vous allez dire, a priori, c'est halal. Il fait des voitures, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal en réalité ? Quelqu'un a la réponse ?
Les gens, ils font des crédits pour acheter des véhicules.
C'est pas le fait que les gens fassent des crédits pour les acheter. C'est vous, mais vous chauffez.
Ils réinvestissent son argent dans
les qui la société en elle-même, le constructeur automobile, oui, s'il a de la trésorerie, il va la placer, il va investir. Mais il y a encore plus direct que ça.
Peut-être la forme d'investissement, parce que si j'achète des obligations de la société, ça revient à faire des intérêts.
Ça, oui, mais c'est trop compliqué, donc je ne vais pas rentrer dedans. C'est elle est recours aux dettes. Ça, ça rentre dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les comptes de la banque, de la société, doivent être le moins possible exposé aux intérêts. Donc si elle a de la trésorerie, qu'elle la place sur des intérêts, c'est pas bon. Si elle-même, elle emprunte beaucoup sur les marchés financiers ou bien à la banque, elle paye des intérêts aussi, donc elle est trop exposée aux intérêts. Ça, c'est une chose. Mais moi, je parle même de l'activité, son activité. Construire, vendre des voitures. Mais souvent, elle a une autre activité.
Ils vendent des voitures à crédit directement.
Barakallahu fik. Souvent, les constructeurs automobiles, ils ont eux-mêmes, dans leur groupe, ils ont une banque. Tous les grands groupes automobiles, ils ont une banque. Ils vous proposent directement le crédit. Vous voulez la voiture avec le crédit. Vous pouvez dire non, je vais prendre la voiture toute seule. Ou alors non, je vais prendre la voiture et je vais aller prendre un crédit ailleurs. Mais vous pouvez aussi prendre le crédit directement. Donc, quand on regarde le bilan du groupe tel ou tel, qui apparemment est une marque de voiture, en réalité, on voit que c'est à moitié une banque. Une grosse partie de leur activité et de leurs revenus, c'est du crédit. D'accord ? Ça, on n'y pense pas forcément au départ. Et ces sociétés-là vont tout à fait se retrouver dans les produits qu'on vous propose à la banque. Oui, regardez, on va investir dans telle société, c'est super. Hein ? Oui, mais derrière, est-ce que vraiment on a une analyse suffisamment poussée pour savoir si leur activité, elle est halal, et si leur santé, leur compte, ils sont suffisamment sains en termes de recours aux intérêts. Donc, pour résumer, les produits d'épargne qu'on vous propose à la banque, à 99,999% sont haram. Comment épargner maintenant? J'ai de l'argent, je veux l'épargner. Soit vous avez vous voulez investir donc dans des projets, etc. Auquel cas, il y a beaucoup de choses à faire en respectant bien ces règles-là. Donc, vous pouvez trouver des gens qui veulent lancer des sociétés, etc. Vous associer, enfin bref, faire beaucoup de choses dans l'investissement. Mais si vous voulez juste une épargne, pépère, bon père de famille, je mets 100 euros de côté par mois pour les enfants plus tard, etc. Vous pouvez tout à fait ouvrir un compte courant, d'accord ? Vous ne prenez pas de chéquier, pas de carte bleue, etc. qui n'est pas rémunéré, et vous mettez ça là-dedans. Le banquier, il ne sera pas content. Je vous le dis tout de suite. D'accord ? Donc, il va tout faire pour que ça ne se passe pas comme ça. Mais voilà, c'est votre droit le plus légitime. Donc, ne vous faites pas... Parce que les banquiers, c'est simple, vous arrivez... oui, alors j'ai un compte courant. Eh, mais vous avez de l'épargne, monsieur. Il faut quand même, il faut penser à faire quelque chose là. Vous pouvez pas les laisser comme ça sur un compte. On vous fait presque croire que c'est obligatoire d'avoir un livret ou un compte d'épargne pour épargner, comme si c'était lié. Enfin, c'est mère et fille. On peut pas faire autrement. On peut faire autrement. Un compte courant. Tous les mois, je mets un peu d'argent dessus. J'y touche pas. Je prends pas de chéquier, pas de carte bleue. C'est tout. C'est la même chose qu'un compte, un livret, sauf qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Eux, ils seront pas contents parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur le livret. Sur le compte courant, ils n'en gagnent pas beaucoup. Voilà. Autre point. Souvent, on pose la question sur l'épargne. Oui, mais on peut aussi prendre un livret qui génère des intérêts et puis après, les intérêts, on les donne à une association. Vous avez déjà entendu ça, je pense. Peut-être la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites, mais... En Ile-de-France, c'est beaucoup ça. Ça a été beaucoup diffusé. Les gens font beaucoup ça. Ils disent « Non, moi, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, je sais comment faire. » Ils prennent les intérêts et après, ils vont les donner à une assoce. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. Vous avez compris, je pense, le problème que ça pose. C'est que dès lors que vous percevez des intérêts, vous percevez des intérêts. Ce que vous en faites après, peu importe, que vous sauviez des vies ou que vous nourrissiez des pauvres, vous avez perçu des intérêts. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Enfin, faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais voilà, gardez en tête ça. C'est comme si je vous dis demain, vous savez quoi, pas de problème, vendez de l'alcool et par contre, les bénéfices, on va les donner aux nécessiteux. Vous allez me dire quoi? Vous allez me répondre quoi? Je vais pas faire du haram pour aller aider les gens. D'accord? La fin ne justifie pas les moyens. Bon. Allahu a'lam. Alors maintenant, on va parler financement immobilier. On a vu le compte courant, on a vu l'épargne. Maintenant, on va parler financement immobilier. Alors, le financement immobilier dans une banque classique, comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Comme ça, je peux boire entre-temps. Si quelqu'un peut lever la main pour expliquer comment ça se passe un crédit immobilier. C'est bon, c'est pour moi. Personne ne sait?
C'est pas là. Le produit immobilier qui nous intéresse, on a un apport, on demande à la banque de compléter et on rembourse les mensualités avec les intérêts. Selon le rythme de remboursement, les intérêts sont plus ou moins. Ouais.
Donc ce que dit le frère, c'est qu'en gros on a un bien immobilier en vue, on veut l'acheter, il coûte 200 000 euros, moi j'ai 30 000 euros, il me manque 170 000 euros, je vais voir la banque. La banque me dit très bien, je te prête 170 000 euros. Et en contrepartie, tu me paieras des intérêts, donc un certain pourcentage, sur un certain nombre d'années. Plus le nombre d'années est élevé, est important, plus les intérêts seront forcément importants. Et c'est tout. Et tu me rembourses ce que je t'ai prêté, plus les intérêts. Le tout étalé sur un certain nombre de mensualités. Voilà. Donc c'est comme ça que se passe un prêt immobilier conventionnel, classique, ce qui se fait dans les banques classiques. Qu'est-ce qui pose problème là-dedans? Très simple.
Problème d'équité, et pour le banquier et pour celui qui souscrit au crédit.
Oui, ça c'est vrai.
Pour le banquier, parce que si l'emprunteur rembourse trop vite, il gagne quasiment rien. Et s'il met du temps à rembourser, il se fait avoir parce qu'il peut se retrouver à rembourser plus que la somme qu'il a empruntée au début. Mmh.
Et ça, c'est fin comme réponse. C'est poussé. Mais le truc le plus direct, c'est...
Et les intérêts.
Les intérêts, voilà. Les garanties, l'assurance, l'indemnité de résiliation anticipée, les pénalités si on ne peut pas rembourser.
Alors, un par un. Les intérêts, ok. Ouais, donc on a dit, qu'est-ce qui pose problème dans ce mécanisme de prêt immobilier classique? Premièrement, c'est qu'il y a des intérêts. Donc c'est un prêt à intérêt. Donc voilà, les intérêts, haram. Ensuite, deuxièmement.
Les garanties, parce que souvent il y a l'hypothèque, donc c'est la banque finalement qui.
Alors ça, je ne vais pas le répéter tout de suite parce que je vais le nuancer. Donc la troisième.
L'assurance. Sur le prêt. La quatrième, c'est l'indemnité de résiliation, c'est remboursement.
Oui, les pénalités de remboursement anticipées. Ouais.
Et la cinquième, c'est les pénalités en cas de résiliation, si par exemple le client ne peut pas rembourser.
Pénalité de retard. En cas de défaut de paiement, etc. Voilà. Donc, bon, c'est une réponse complète. Il y a un point que je ne répète pas parce qu'on va le nuancer un petit peu. Donc, il y a des intérêts. C'est un prêt avec des intérêts. Ça, c'est le premier point qui pose problème. Ensuite, il y a effectivement, souvent, ou quasiment tout le temps, une assurance qui vient sur le prêt. Elle ne fait pas partie du prêt, mais elle vient sur le prêt. C'est une assurance qu'on appelle l'assurance emprunteur, l'assurance du crédit. C'est pas l'assurance de la maison, il faut bien distinguer. Hein. Il y a l'assurance de la maison qui ne pose pas de problème puisqu'elle est obligatoire, même si en réalité elle pose problème, mais comme elle est obligatoire, les choses tolèrent, comme l'automobile par exemple. Mais là, on parle de l'assurance en cas de non-paiement. Si je ne peux pas payer, j'ai un décès invalidité, j'ai un accident, je ne peux plus payer, etc., je ne peux plus travailler. Éventuellement perte d'emploi aussi, eh bien l'assurance va venir tout payer tout ce qui reste. Ça, c'est une assurance qui est haram. Donc les intérêts, l'assurance, troisièmement les pénalités de retard, au cas où je ne paye pas en temps et en heure, on me facture des intérêts en plus. Ça, c'est une clause aussi qui pose problème. Et quatrièmement, les pénalités de remboursement par anticipation, au cas où je veux rembourser plus tôt. Je peux payer effectivement des pénalités et puis par contre il va y avoir aussi en règle générale c'est pas en règle générale tout le temps, ils vont calculer le reste des intérêts qu'il y avait à payer et ils vont nous les enlever. Et ça, ce que disait un autre frère, c'est qu'effectivement c'est pas non plus licite. Alors la pénalité en elle-même, elle est pas licite, et deuxièmement le principe même de recalculer la charge d'intérêt par rapport à la durée il n'est pas licite puisque donc forcément ça veut dire que le gain est uniquement, strictement et uniquement lié au passage du temps. Et en plus, c'est effectivement potentiellement une source d'inéquité, d'injustice, puisque on s'est mis d'accord sur un prix, entre guillemets, ou sur un montant, et puis si tu viens payer plus tôt, moi j'aurai pas le montant que je voulais, et si tu payes plus tard, je peux avoir des problèmes, même si il y a des pénalités après qui vont venir régler ce problème en partie, et les garanties dont on parlera après. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait en finance islamique ? Là, il faut bien se concentrer, s'il vous plaît. Je sais que c'est long. Là, on est déjà presque à une heure, donc c'est un petit peu long. Mais je vous demande de bien vous concentrer parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de monde. Et donc, il faut bien écouter pour que les questions après soient efficaces, Inch'Allah. Alors, déjà, le financement immobilier islamique, qu'est-ce que c'est ? Avant de dire qu'est-ce que c'est, je vais dire qu'est-ce que c'est pas. D'accord ? Les gens souvent pensent que, là on vous avait expliqué qu'un prêt à intérêt, ce qui pose problème c'est les intérêts. Donc il y a le prêt, il y a les intérêts, ce qui pose problème c'est les intérêts. Donc, pour enlever le problème, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève les intérêts. Khalas, intahal amr, on peut rentrer chez nous, c'est bon, on a trouvé la solution, il faut faire du prêt à taux zéro. Qu'est-ce qu'on gagne dans le prêt à taux zéro ? Zéro. On gagne zéro. Donc, est-ce que ça, concrètement, c'est une solution qui semble réaliste ? Non, parce que personne, vous-même, vous ne le ferez pas. Souvent, je pose la question à des clients, en conférence, un peu moins, parce que les gens, ils osent pas dire oui devant tout le monde, etc. Mais avec les clients en privé, ils répondent. Je pose la question, si demain, votre propre frère de sang, pas seulement de frère en islam, frère de sang, vous demande de lui prêter 200 000 euros et que vous lui rendez sur 20 ans. Vous avez que 200 000 euros. D'accord ? Vous avez que 200 000 euros. Il vous dit, moi je vais aller acheter ma maison, vous êtes locataire. D'accord ? Vous avez économisé, vous avez 200 000 euros, votre frère il vient vous voir, ah t'as 200 000 euros, tu me les prêtes, je vais acheter une maison. Et je te rends sur 20 ans par contre. Et sans intérêt, tu gagnes rien. Vous le faites ? Ah, je le savais. Moi, je le fais pas. Personnellement, je le fais pas parce que j'ai que ça. Donc moi, si j'ai des projets, qu'est-ce que je fais ? Premièrement. Deuxièmement, 20 ans, moi, peut-être dans 2 ans, je suis mort. Donc j'ai des besoins, j'ai des projets, etc. Je vais attendre 20 ans pour avoir mon argent. D'accord ? Et troisièmement, c'est bien, tu as ta maison, c'est sympa. Tu pourras m'inviter pour faire des barbecues. Et moi, pendant ce temps, je fais quoi ? Je continue à payer un loyer, je suis dans mon petit truc, j'ai pas de jardin, et toi, c'est la fête. Okay. Voilà. Donc, vous ne le feriez pas. Alors, pourquoi vous, votre propre frère de sang, vous ne le feriez pas et vous attendez qu'une banque qui ne vous connaît pas, elle vous le fasse ? La banque, elle a des actionnaires. Il y a des gens qui ont investi leur argent là-dedans. Ils vous connaissent ? Ils vous connaissent pas ? Pourquoi ils vous le feraient ? Allez, les gars, non, allez, Fissabil, allez. 20 ans, allez. Donc, je rajoute encore un autre point. Al-Qard, le prêt en islam, dans la catégorie des contrats, on le met dans les contrats de bienfaisance, les actes de bienfaisance, ce qu'on appelle la tabarru'at. D'accord ? On considère que c'est un acte de bienfaisance. C'est de la charité de prêter de l'argent sans intérêt. D'accord ? Donc, est-ce qu'on peut demander la charité à une banque ? Non. On ne peut pas demander la charité à une banque, ni à n'importe quelle entreprise. Parce que banque, parce que ça peut paraître un peu diabolique, la banque, oui, c'est des méchants, donc forcément, ils ne vont pas nous prêter, ils ne sont pas sympas. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Une entreprise, une personne morale, c'est quoi son but ? Son but, il est quoi ? Il est lucratif. Une société, elle est là pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. C'est haram de gagner de l'argent ? Non, tant qu'on le fait de manière halal. Donc pourquoi est-ce qu'on attend d'une banque ou de n'importe quelle entreprise qu'on nous prête sans intérêt ? Fisabilillah. Ça n'existe pas, il faut aller voir le Secours islamique pour ça. C'est pas une entreprise qui va vous faire ça. D'accord ? Moi, le Secours islamique non plus, c'est pas leur job non plus. Mais vous comprenez, limite, ce serait plus logique d'aller voir le Secours islamique pour ça que d'aller voir une banque. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, comme ça, vous l'avez bien en tête, parce que souvent, les gens, quand on leur explique comment ça marche, à la fin, vous gagnez de l'argent. C'est haram. Voilà. Donc déjà comprendre bien pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui en général ne fonctionne pas, c'est qu'on regarde ce qui existe, on dit qu'est-ce qu'on va enlever pour que ça soit halal. Alors qu'il faut dire non, ce qui existe, on efface. On efface tout. Quel est le besoin? Il y a une maison, il y a une personne qui a de l'argent, il y a une personne qui n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver une solution. Voilà. Mais il n'a pas l'argent tout de suite, lui. Il n'a pas tout tout de suite, il n'a qu'une partie. Comment on fait? Voilà, khalas. Tu vois? Ça y est, tu vas prendre ma place pour la suite de la... Voilà, donc quand on raisonne de cette manière-là, on arrive à des choses beaucoup plus rationnelles. Et quand on va acheter la maison, donc le frère dit, bah logiquement, s'il y a une maison, une personne A, un individu A qui a de l'argent, et il y a monsieur B qui n'a pas d'argent, monsieur B veut la maison, monsieur A a de l'argent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur A achète la maison et il la revend à monsieur B. Monsieur B n'a pas tout l'argent. Monsieur A dit à monsieur B, d'accord, tu me payeras en plusieurs fois. Quel intérêt il a à faire ça? Est-ce qu'il va revendre au même prix qu'il a acheté? Non. Un commerçant qui achète des patates, il vous les revend au prix qu'il les a achetées? Non. Voilà. Donc on a trouvé une solution qui est à la fois qui répond aux besoins de tout le monde et qui est halal. Parce qu'on fait du commerce. Voilà. Ça s'arrête là. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. C'est fini? Non, c'est une blague. Là, vous avez compris, je pense, le plus important. J'ai pas fini, je rigolais. Hein. Vous avez compris le plus important. C'est que ça, c'est une logique qu'on applique dans tout en finance islamique. On regarde le besoin et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une solution halal. On se dit pas, voilà, qu'est-ce qui existe et il faut qu'on corrige ça, il faut qu'on enlève ça, on le pousse un peu sur le côté, ça. Non, ça marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Donc, il faut repenser la logique même de l'opération. Donc ici, ce qui va se passer, c'est effectivement que donc, celui qui a l'argent, en l'occurrence, on va dire la banque, pour schématiser, la banque va acheter, au lieu de prêter de l'argent au client pour qu'il ait acheté, et la banque va acheter elle-même le bien immobilier, la maison. Elle va acheter la maison, elle va payer, elle va devenir propriétaire, elle va signer chez le notaire. Une fois qu'elle est propriétaire, là, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec ce bien. C'est à elle, elle fait ce qu'elle veut avec. Elle peut habiter dedans, elle peut ouvrir son agence dedans, elle peut la louer et elle peut aussi la revendre. Si elle la revend, elle peut la revendre au prix qu'elle veut. Moins cher, même prix, plus cher, elle fait ce qu'elle veut. D'accord? Et ensuite, elle peut aussi octroyer au client, à l'acheteur, un délai de paiement. Elle a le droit de lui dire tu payes tout de suite ou tu me payes demain ou tu me payes en 10 fois ou en 120 fois. D'accord? Donc voilà comment fonctionne l'opération de Murabaha. Pourquoi ça s'appelle Murabaha? Parce que pour ceux qui ont fait un peu d'arabe, vous entendez dedans l'asl, de l'échelle, enfin la base du mot ribh. Donc le gain il est affiché. D'accord? Dans la Murabaha, la particularité de la Murabaha, c'est que on déclare la marge. On dit voilà, j'ai acheté 100, je te vends 120. D'accord? Ça, c'est une particularité de ce type de vente. Et puis ensuite, on peut combiner, en général, c'est ce qui se passe, hein, avec une composante de crédit. Alors le crédit, attention, je vois les yeux qui s'écarquillent. Le crédit, dans le droit, crédit, ça veut dire différer. Différer de paiement, de versement, de remboursement, ça veut dire payer plus tard. D'accord? Crédit, ça ne veut pas dire prêt d'argent. D'accord? Parce que souvent, par abus de langage, on dit un crédit immobilier. Ce n'est pas un crédit immobilier, c'est un prêt à intérêt, c'est un prêt immobilier. D'accord? Donc, on peut aussi faire ce qu'on appelle une vente à crédit. Qu'est-ce que c'est? Ce serait quoi une vente à crédit? Une vente à crédit. Une vente au comptant, une vente à crédit. C'est quoi la différence? Voilà, une vente à crédit, c'est que la première étape, c'est la même. Je donne le bien, transfert de propriété. Si c'est une vente au comptant, eh ben le paiement, il est au comptant. Si c'est une vente à crédit, le paiement, il est différé. Soit il est différé entièrement, soit par mensualité, soit par, peu importe, par annuité, enfin, peu importe, c'est pas l'important. Il est échelonné, on va dire. D'accord? Ça, c'est comment fonctionne la Murabaha. Ensuite, Alors, la définition, bah, là, vous pouvez la lire à tête reposée. Ça reprend donc ce que je viens de vous expliquer, un peu schématiquement. Il faut savoir que la murabaha, en France aujourd'hui, il y a une instruction fiscale, un document qui est rédigé dans le bulletin officiel des impôts, qui traite de la murabaha. D'accord ? Donc c'est le ministère des Finances qui a rédigé ce document, donc l'administration fiscale, Bercy si vous voulez. Vous le trouvez sur internet, vous tapez instruction fiscale murabaha, vous allez être étonné de voir un document avec le logo là, de l'administration fiscale, le même que vous avez sur vos impôts, là, vous savez, celui-là, avec écrit en bas, instruction fiscale murabaha. Il y a écrit murabaha, hein, pas en arabe, hein, pas encore. Il y a écrit murabaha. Et après, ça explique comment ça marche la murabaha, etc. Et donc, ensuite, ils expliquent dedans comment est-ce que ça va. On va appliquer, quelle fiscalité on va appliquer à cette méthode. Et pour vous dire que l'État français, la loi, a intégré cette méthode de financement. Donc ça, voilà, on l'a déjà expliqué, c'est juste un schéma de rappel. Donc vous avez la banque qui achète le bien, ensuite elle le revend au client, le client paye une partie du prix lors de la signature. Lors de la signature, le client devient tout de suite propriétaire, d'accord ? C'est pas plus tard, il devient tout de suite propriétaire. Et ensuite, la partie du prix qu'il n'a pas payé tout de suite s'est étalée sur un certain nombre de mois et donc d'années. Alors, il y en a qui ont fait un peu de firk ici. Même des... excusez-moi, cher, la question ne s'adresse pas à vous. Il y en a qui ont fait un peu de firk ?
Bien sûr.
D'accord. Lorsque on a fait cette opération, on a acheté, on a revendu, ça y est, le client, il est propriétaire, mais il n'a pas tout payé. Le reste qu'il n'a pas payé, ça, comment on le qualifie, Charlan ? Ça devient quoi ? Dain, voilà. Avec tout ce qui va s'appliquer comme règle inhérente au Dain. Donc la dette, ça devient une dette. D'accord ? Ça devient une dette. Donc au départ, il y a une vente, et ensuite, la résultante, c'est une dette, puisqu'il y a une partie du prix qui n'a pas été payée tout de suite. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que la deuxième étape, finalement, c'est la même que dans un crédit, un prêt immobilier classique. D'accord ? Sauf que ce qui a provoqué la dette, c'est pas la même chose. D'accord ? Dans un prêt à intérêt classique, c'est la dette elle-même qui génère des intérêts. Dans la murabaha, c'est la vente et le fait qu'on n'a pas tout payé tout de suite qui génère une dette. D'accord ? Qui crée une dette. Alors, ça c'est trop détaillé, donc on va passer sur ça. Je pense que pour le financement immobilier, vous aurez des questions, donc je vais passer à la suite, Inch'Allah, et puis notez vos questions sur le financement immobilier. Inch'Allah, on y répondra après. Je préfère faire comme ça me permet de dire que j'ai pas trop abusé au niveau du temps. Après les questions, je dirais que c'est de votre faute, parce que c'est vous qui avez posé des questions. Que si je sais déjà ce que vous avez posé comme question en fait. Donc je pourrais répondre tout de suite, dire voilà, il y a tel point. Mais après, on va déborder beaucoup au niveau du temps et on dira que c'est de ma faute. Donc je préfère passer. L'épargne, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est, j'avais juste changé l'ordre. Donc je m'excuse, ça n'apparaît que maintenant. Ensuite, comment expliquer le développement lent de la finance islamique en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà, les pouvoirs publics ont fait leur travail, les professionnels existent, il y a des gens compétents en France, des avocats, des financiers, des notaires, etc. Il y a de tout aujourd'hui, des gens qui sont compétents en finance islamique. Maintenant, ce qui manque, c'est les établissements financiers, il manque les banques, d'accord ? Les banques, l'une des raisons pour lesquelles elles se lanceraient, c'est... ou qu'elles ne se lanceraient pas. À votre avis, pourquoi une banque ne se lance pas ? Ça, c'est une excellente réponse. Ça mérite un petit cadeau. Mais je rigole, c'est vrai, en plus, t'as le droit à un petit cadeau.
Ça donne un choix aux autres de faire en intérêt ou sans intérêt. Et leur intérêt à la banque, et que tout le monde emprunte avec intérêt, ils gagnent plus d'argent.
Ils gagnent plus d'argent en faisant des prêts à intérêt qu'en faisant ça ? Qu'en faisant la murabaha ? Non. Ils gagnent autant d'argent. Voire peut-être plus.
Ça casserait leur marché.
Pourquoi ça casserait leur marché? Un frère dit ça casserait leur marché.
Parce que c'est plus un mouvement solidaire.
Un mouvement solidaire?
Ça va plus, ça tend plus vers la solidarité que le capitalisme. Mmh.
C'est une vision très, très comment dire, optimiste des choses. Mais j'ai dit tout à l'heure que la finance islamique, c'est on gagne de l'argent. Donc, tout à l'heure, il a dit, Mohamed, il y a des gens qui se sont lancés dans le halal. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de vous faire manger halal?
Mais au moins,
ils ont bénéfice
quand même.
Enfin, non. Il y a dans le halal, plus d'argent à gagner?
Moins.
Leur
système à eux.
Non. Il y a autant d'argent à gagner.
Ça ne sera axé que sur des produits halal et non licites et non illicites. Pour eux, ça les arrange pas.
Qu'est-ce qui les arrange pas?
Ça ne sera axé que sur des produits halal et non illicites.
Et pourquoi ça les arrangerait pas? Ils pourraient tout à fait le proposer. D'accord. D'autres propositions? Si la dette n'est pas honorée, il y a un risque pour la banque. Oui, c'est vrai, il y a un risque pour la banque, mais il y est aussi pour un crédit classique.
Là, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'assurance pour couvrir.
C'est vrai, il n'y a pas l'assurance, mais il y a des garanties. On va y en parler tout à l'heure. Il y a les hypothèques, etc. On revient sur le point qui avait été évoqué tout à l'heure. L'hypothèque n'a rien d'illicite en islam. On a le droit de couvrir une dette par un gage ou une hypothèque. On a des cas, hein, le prophète sallam lui-même qui, dans certains cas, quand il avait contracté une dette, il laissait, on avait un exemple avec son bouclier qu'il avait laissé en gage chez un commerçant, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Ah, excuse-moi. Ah,
les banques sont organisées pour fonctionner selon les règles islamiques.
Ça c'est notre travail. Ça, c'est notre travail. Il suffit qu'elle nous fasse juste un petit chèque, on le fait. Le frère dit les banques peut-être ne savent pas le faire. Peut-être elles ne savent pas le faire, elles ne sont pas organisées pour le faire, etc. Tout s'achète. Tout s'achète. Un consultant qui vient, qui peut me mettre en place un financement immobilier islamique dans ma banque. Voilà. Okay. Comme je dis, ils nous font un joli chèque et on leur fait tout en même pas un mois, c'est plié. Et on l'a déjà fait avec plusieurs banques, c'est pas le problème ça.
Il y a un manque de clients.
Il y a le frère qui a levé la main avant, après ça. Enfin.
C'est le système monétaire en fait. Le fait qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que pour acquérir les biens au début, il faut qu'ils disposent des fonds. Alors qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est la création de monnaie à partir de l'engagement de remboursement.
Ça, je vais absolument pas le répéter parce que c'est trop compliqué. Non, le frère répond, il y en a un frère qui répond, le problème des banques, pourquoi elles ne se lancent pas, c'est qu'elles n'ont pas les fonds. Et en fait, en finance islamique, on demanderait à ce que les fonds soient disponibles, etc. Alors qu'elles ont l'habitude d'aller emprunter sur les marchés avec des intérêts pour ensuite financer leur crédit immobilier, etc. On a des solutions qui existent en finance islamique. Donc là, j'attends une réponse qui est plus à la portée de tous. Moins technique. Frère, je t'avais... Manque de clients, ouais, c'est pas mal. Mais en même temps, si on ne fait pas, comment on sait s'il y a des clients ou il n'y a pas de clients? Mais tu chauffes. Enfin, vous chauffez, pardon. Il y avait... J'essaie d'interroger des personnes qui n'ont pas encore parlé. Oui, c'est drôle. Donc il y a un frère qui dit elle se lance pas peut-être parce que si elle se lance là-dedans, du coup elle ne pourrait plus faire leur activité haram. Non, c'est pas correct parce que en fait c'est possible, c'est tout à fait possible. Comme vous avez à Carrefour, vous avez un rayon Alors, à chaque fois, je dis les noms. J'oublie qu'il ne faut pas le dire. Vous avez dans les grandes, les grandes enseignes, la grande distribution, voilà, vous avez un rayon halal et à côté, vous avez le saucisson. Mais à Carrefour, où vous faites vos courses? J'ai encore Carrefour.
Moi, j'ai fait Lidl.
Ah, je ne vais pas le répéter. Mais vous avez des choses qui sont pas halal là-bas.
Mais non, c'est comme quand
vous allez, vous achetez ce que vous voulez et vous ressortez.
Est-ce que le halal et le haram, on peut les mélanger?
Et mais à Lidl, est-ce qu'ils sont mélangés?
Non, mais moi, je vous pose la question. Je dis, bon, j'achète moi mes produits. Je vous demande, est-ce que...
Non, je sais.
Le halal avec le haram.
Eh bien, dites-vous que dans la banque, c'est la même chose qu'à Lidl. Ou à Carrefour, ou à Leclerc.
C'est une banque islamique. Il faut dire que du halal à 100%.
Ah non? Et bien, dans ce cas, pourquoi vous ne demandez pas à votre, là où vous allez faire vos courses, à ce qu'il n'y ait que des produits halal?
Mais j'aimerais bien.
Mais est-ce que ça... Non, il y a ce qu'on aimerait et il y a ce que Sharia demande. C'est deux choses différentes. Ce qu'on aimerait, oui, c'est que, voilà, que tout le monde soit beau et gentil. Mais moi, je parle de ce qui est les exigences de Sharia. Est-ce qu'on demande à ce que dans une boutique, il n'y ait pas de viande de porc qui soit vendue ou d'alcool pour pouvoir nous acheter notre brique de lait et nos pâtes? Est-ce qu'on leur demande ça? Non, bah non, tous les jours, on a...
Parce qu'on ne peut pas décider.
Mais quand bien même on pourrait. Est-ce que c'est une exigence de Sharia? Est-ce que ça rend vos achats haram? Non, vous avez le droit d'acheter chez eux s'ils vendent autre chose à côté. C'est pas le problème. Et la banque, c'est la même chose. Elle peut avoir les fonds qui rentrent du côté finance islamique, ils rentrent, ils vont là. Les fonds qui rentrent de l'autre côté ou les crédits, ils sont là-bas. Entre les deux, il y a un mur, il y a une muraille de Chine et puis c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas de problème, c'est pas un problème ça. Autre opposition? Ah, il n'a pas encore parlé, le frère. Les deux, d'ailleurs. Il y en a deux, un derrière. Commencez, et puis après, le frère derrière.
Bon, je voulais dire, Inch'Allah, parce que les établissements, je dirais, de crédit, qui investissent dans l'usure et le riba, ils ne veulent pas partager, je dirais, le risque. Par contre, les établissements financiers islamiques, ils investissent dans, je dirais, non seulement le profit, mais aussi le risque éventuel.
Donc le frère dit, peut-être les banques ne veulent pas se lancer dans sur ce marché parce que, comme on l'a expliqué, il y a des risques. Par exemple, dans la murabaha, de faire de la murabaha, on achète la maison, on la revend. Bah, quand on l'achète, c'est un risque qu'on prend parce que la maison, elle peut brûler avant qu'on la revende. La personne qui voulait acheter, bah, il peut décéder, il ne peut plus acheter, je me retrouve avec une maison entre les mains, etc. Donc il y a des risques réels. D'ailleurs, ce sont ces risques-là qui justifient qu'on puisse avoir une marge à la fin. Puisque c'est ça l'opération de commerce. Le commerçant, pourquoi il a le droit de gagner? Parce qu'il prend des risques. Donc le frère dit, c'est peut-être ces risques-là, bah, la banque classique, elle n'a pas l'habitude de les prendre et du coup, elle n'a pas envie de prendre ces risques-là. Voilà. C'est pas faux, mais il y a des solutions pour ça aussi. C'est que quand vous prenez des risques en plus, qu'est-ce que vous faites pour vous couvrir? Un des moyens les plus simples. Ouais. L'assurance, on peut pas parce que c'est pas halal. Ouais. Voilà, très bon. Un cadeau aussi pour ta frère. Le prix. Je vends un produit à 10 euros. Finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de risques dans mon opération. Je monte le prix. Comme ça, ce que je rajoute comme prix, c'est ce qui va me permettre de mettre un peu de sous de côté au cas où un risque justement se réalise. Imaginez une banque qui fait du financement immobilier halal, murabaha. Ils achètent 100 maisons par exemple, 100 maisons. Sur les 100, il y en a une qui brûle. Ça coûte 100 000 euros par maison. Il y a 100 000 euros perdus, une maison qui est perdue. D'accord? Si maintenant la banque se dit, bah, ça c'est une perte pour moi, il faut que je l'anticipe, il faut que je le calcule dans mon prix. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire 100 000 euros, j'ai 100 clients, combien je fais par client? 1000 euros par client. Donc je rajoute sur mon prix de vente, je rajoute 1000 euros. Pour chaque client, je le rajoute 1000 euros. De manière à ce que tout le monde paye pour celui dont la maison va brûler. Mais on ne sait pas qui c'est. Donc voilà. Et moi, en tant que banque, bah, je me suis couvert. J'ai l'argent qu'il faut pour, en cas où j'ai un pépin, couvrir ce pépin. D'accord ? Donc c'était une très bonne remarque, très pertinente, mais il y a une solution. Il y a une solution à ça. Moi, je cherche quelque chose qui, pour une réponse pour laquelle la solution vient de nous. pas de nous dans le sens de la communauté, pas nous, nous 570, parce que des réponses sur le plan technique, on peut en apporter beaucoup, mais après, il y a une réponse que nous, on ne peut pas apporter, que de vous, que la communauté doit apporter. Rien à voir. C'est une partie de la réponse que j'attends. Effectivement, l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas ce qu'on a vu de par notre expérience, l'une des raisons pour lesquelles les banques sont un petit peu réticentes, c'est que le fait de dire finance islamique, voilà, ça fait un petit peu peur. On se dit peut-être que aujourd'hui c'est pas forcément le meilleur moment pour dire que je fais de la finance islamique ou que je fais d'ailleurs quoi que ce soit d'islamique. D'accord ? Donc ça, c'est une bonne réponse. Maintenant, et c'est très bien qu'elle arrive maintenant, parce que la deuxième partie de la réponse, si je vous dis, est-ce qu'il y a un exemple aujourd'hui, qui n'est pas très loin d'ici, c'est presque une charade, il y a un exemple pas très loin d'ici, géographiquement, on peut y aller à pied, qui est la preuve que ça, ce que vous avez dit là, qu'on peut dépasser ça. Et qu'il y a des choses qui nous font oublier ce que vous venez de dire là. Islamique, ouais, c'est pas top, mais bon. Quand faut y aller, faut y aller. Je l'ai entendu, je crois. Hein? Voilà, Baraklofik. Là où on mange des hamburgers. Qui est devenu halal, et il y a eu tout un tas d'attaques, et il y a même une ville où le maire s'est emmêlé pour attaquer le projet, etc., etc. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Burger super rapide. Vous connaissez, c'est pas loin d'ici. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Mais c'est simple, moi, j'ai plus à gagner qu'à perdre. Certes, je sais que je vais m'attirer les foudres, je sais qu'il y en a qui vont crier, je sais que ça va, le FN et compagnie. Mais j'ai plus à gagner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont passés halal, leur chiffre d'affaires, il a doublé. Voilà. Donc, la seule chose, encore une fois, on revient au point de départ. Une personne morale est là pour quoi ? C'est quoi son objet ? C'est quoi son but ? C'est quoi ? C'est de gagner de l'argent, c'est de faire de l'argent. Voilà. Donc, s'il y a de l'argent à faire, bleu, blanc, rouge, ou n'importe quelle autre couleur, on y va. Voilà. Donc, voilà, ça introduit ma dernière diapositive. C'est que comment ça pourra bouger tout ça ? Comment faire en sorte que ça bouge ? C'est qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à montrer aux banques que de la même manière que burger rapide, eh bien qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. Comment on peut faire ça ? En agissant un petit peu. Parce que souvent, nous, musulmans, on est un petit peu... on est souvent passifs. Enfin, on demande beaucoup, on exige beaucoup. Ah, il n'y a pas de finance islamique. Ah, c'est pas sérieux. Le halal, c'est n'importe quoi. Ah, voilà. Souvent, on se comporte comme des purs consommateurs, comme si tout nous était dû. Il faudrait normalement qu'il y ait ça, et je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas. Et alors qu'on a de nous-mêmes des besoins qui sont spécifiques, d'accord ? Donc c'est à nous de bouger pour que ça se fasse. Les autres ne vont pas le faire pour nous. D'accord ? Ça semble évident, ça semble naturel, mais pourtant, on ne bouge pas beaucoup. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui, à titre personnel, chacun d'entre vous, qu'est-ce que je fais pour que la finance islamique puisse avancer ? Voilà. Donc soutenir les initiatives, passer le mot autour de vous, s'informer un minimum, se former un petit peu. Bon, là, c'est suffisant. Par exemple, ce genre de rencontre, etc., c'est suffisant. Vous pouvez aller sur Internet, trouver quelques petites choses. Il y a des vidéos qui sont bien faites, qui expliquent, etc., de manière à pouvoir ensuite passer le mot autour de vous, à votre famille, à vos amis, vos frères et sœurs et compagnie. Et puis, également, ce que vous pouvez faire, alors ça, on le propose sur le site internet, vous avez deux choses. Premièrement, exprimez votre besoin, c'est-à-dire c'est un formulaire qui prend 3 minutes où on dit, voilà, moi, je serais intéressé par ci et ça et ci et ça. Voilà. Et ça, nous, ça nous permet de faire quoi ? Bah, ces banques avec qui on travaille déjà, mais parfois en catimini, voilà, elles ne veulent pas trop le faire voir. Voilà, un coup, ça va être pour un joueur de foot, on le fait en cachette, etc. Mais quand on leur dit, mais regardez là, le joueur de foot, c'est bien, mais regardez là, 5 millions de musulmans. Ouais, mais non, mais on ne sait pas trop, est-ce que vraiment ils sont intéressés ou pas, est-ce que... On ne sait pas, c'est pas clair, c'est... Voilà. Mais qu'on puisse aller les voir et leur dire, non, maintenant, il n'y a pas de... C'est pas clair, c'est très clair. Là, il y a 50 000 clients pour vous, là. On y va ou on n'y va pas ? Aujourd'hui, une banque en ligne, vous savez, les banques en ligne, je ne vais pas citer de nom encore, mais les banques qui sont que en ligne, la plupart, elles partent avec un objectif en termes de nombre de clients de 50 000. Elles se disent qu'à 50 000 clients, on est, c'est bon. On a atteint notre, on va dire, le niveau zéro. Et après, c'est que du bonus. 50 000 clients pour qu'une banque en ligne soit rentable. On est combien de musulmans en France ? 5 millions. Il y a de la marge quand même. Voilà. Et puis, ce qu'on propose aussi, c'est, vous le trouvez sur notre site internet, c'est un courrier, en fait, à envoyer à votre banquier. C'est un courrier type, vous le faites un copier-coller, vous mettez dans votre mail, vous envoyez à votre banquier, et le courrier, il dit, voilà, moi, bon, bah, je serais intéressé par ce type de produit, ce type de solution, est-ce que vous aurez quelque chose à me proposer ? Imaginez que 5 millions de musulmans en France envoient ça à leur banquier. Imaginez ça. Vous croyez vraiment qu'ils vont rester comme ça, à se tourner les pouces ? Mais pas une seconde. On a beaucoup de clients qui l'ont fait. Enfin, beaucoup. C'est relatif. Peut-être, allez, une cinquantaine. On est 5 millions. C'est déjà un succès énormissime. Je pense que le premier jour où le burger rapide halal a ouvert, il y avait plus de monde que de nombre de personnes qui ont fait qui ont pris cette initiative. Mais bon, c'est meilleur un burger que, que d'agir pour ces causes. Donc voilà, et ça a donné de très bons résultats. Et on se dit que voilà, clairement, s'il y a beaucoup de monde qui le fait, ça peut très très bien marcher. Parce que ça remonte. Quand il n'y en a qu'un qui le fait, bon, bah, le conseiller il dit non, on n'a pas, allez voir ailleurs si j'y suis. Mais quand il en reçoit 50, un seul conseiller, il en reçoit 50, ou une agence qui en reçoit 200, 300, forcément, ils vont en parler. Ils vont se retrouver avec la direction régionale. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Oui, en fait, juste un truc. Alors, si c'est qu'une agence, il ne va pas oser en parler. Parce que. Bon, bah, y a les autres autour, bon, on va pas trop parler. Mais si tous, en catimini, là, quand ils arrivent avant la réunion, le petit café, hey, au fait, tu sais, moi, j'ai pas mal de. Je reçois des mails, mais c'est incroyable. Hey, mais tu sais quoi ? Moi aussi. Ah bon ? Attends, viens, on va demander à lui. Et toi aussi ? Ah, bah, on va le dire au grand patron alors. Puisque tout seul, il n'osera pas le dire. C'est quoi, islamique ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et voilà, et de fil en aiguille, ça se passe comme ça. Ça remonte à la direction. Et voilà. Bingo. Quelques références pour les personnes qui veulent creuser un petit peu, les curieux. Donc quelques ouvrages de référence pour mieux comprendre la finance islamique. Vous les trouverez aussi au moins les références sur le site internet. Il y en a qui sont en consultation libre, comme le premier là, Finance islamique et immobilier en France, puisque c'est nous qui avons rédigé le livre en partenariat avec un cabinet d'avocats. Donc il est gratuit sur notre site internet, vous pouvez le télécharger. En PDF, etc. Voilà. Et puis, vous avez aussi sur notre site une BD pour ceux qui veulent s'intéresser, mais de manière un peu plus ludique, un peu moins académique. Vous avez une petite BD qui explique un petit peu tous ces sujets de manière ludique. Elle est également consultable directement en ligne sur le site internet. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Les questions sont ouvertes. Pour ma part, j'ai terminé.